depuis le début. Donc, comme on a vu la dernière fois, Hanouka a son origine dans l'origine des êtres, à la création du monde, la création de la lumière. Et puis après, on voit qu'à l'époque du deuxième temple, Hanouka a pris une dimension politique, la libération. Est-ce qu'il y aurait un rapport entre le motif de la lumière à Hanouka et la dimension politique? La réponse est tout à fait vraie, qu'il y a un rapport, puisque l'ennemi en question était la Grèce. Or, la Grèce est considérée selon les Midrashim comme étant l'obscurité, ce qui ne laisse pas sans étonnement, étant donné que la Grèce, c'est ce qui a amené la lumière dans le monde, la démocratie, l'esthétique, la science et tout le bazar, et pourtant les Chachamim disent que c'est l'obscurité. La réponse est très simple, les Chachamim savent que la Grèce, c'est une lumière, et que nous aussi, nous avons une lumière. Une lumière s'oppose à l'autre lumière, donc il y a obscurité. En quoi obscurité? Alors rappelons tout d'abord que lorsque les Grecs ont rencontré les Juifs pour la première fois, ils en étaient paf, ce qui n'est pas un nom normand, et ils ont été très impressionnés, comme en témoigne par exemple Cléarque, l'élève d'Aristote, à propos de la rencontre entre Shimon HaTzadik et Aristote. Mais événement beaucoup plus connu, c'est à l'époque des Ptolémées. Vous savez que lorsque l'empire d'Alexandre le Grand s'est divisé en plusieurs parties, en Égypte a régné une dynastie hellénistique, celle des Ptolémées. Or, Ptolémée II, Philadelphe, a décidé de traduire la Bible en grec. Pourquoi est-ce qu'il a voulu traduire la Bible en grec? Parce qu'il a dit, votre livre est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et tel que c'est raconté dans les sources, l'arrivée des 70 sages de Jérusalem qui venaient traduire, ça s'appelle la traduction des 70, qui venaient traduire la Bible en grec, était pour le roi d'Égypte de l'époque, qui était grec, c'était un jour de fête. D'accord? C'était quelque chose d'extraordinaire pour les Grecs d'Alexandrie. Par contre, les sources talmudiques nous disent qu'au contraire, ça a amené l'obscurité dans le monde. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire traduire la Bible en grec pour les Grecs. C'est le meilleur traitement qu'on puisse faire. Vous avez un livre extraordinaire, nous allons le traduire en grec. Il aura donc sa place d'honneur dans la bibliothèque d'Alexandrie, à côté des œuvres de Platon, d'Aristote et les autres. C'est-à-dire, c'est tellement grand que ça mérite une place chez les philosophes. Et donc, du point de vue des Grecs, c'était la meilleure manière d'admirer le judaïsme. Et en fait, de notre point de vue, c'était une catastrophe. Parce que la position des Grecs par rapport à la Torah, c'est que la Torah est une sagesse. Une sagesse, c'est universel. Donc, vous autres les Juifs, on vous remercie d'avoir été les dépositaires pendant si longtemps d'un livre tellement important. Heureusement que vous ne l'avez pas perdu. Maintenant, on va le sauver de l'oubli en le traduisant dans la langue de la culture générale. La culture générale, c'est le grec. À partir de ce moment-là, la Bible devient un patrimoine de l'humanité, et donc on n'a plus besoin des Juifs. Les Juifs ont le droit de disparaître de l'histoire pour se fondre dans le décor, étant donné que ce qu'ils avaient de meilleur, c'est-à-dire la Torah, maintenant fait partie de la bibliothèque. Et la question est de savoir pourquoi c'est tellement gênant. Parce que la Torah n'est pas une sagesse, la Torah n'est pas une philosophie, la Torah est une parole. Quelle est la différence entre une parole et une sagesse? On en a parlé quand on a commencé à étudier le livre de Bereshit. C'est que une sagesse, c'est indifférent à la personne qui l'étudie. Les mathématiques sont vraies, quels que soient ceux qui les étudient. Tandis qu'une parole, elle change de signification selon l'interlocuteur. Or, l'interlocuteur de la Torah, c'est Israël. Donc, si le peuple d'Israël disparaît, la Torah n'a plus de sens. D'accord? Et c'est ça que les Grecs n'acceptaient pas. Il y a dans les prières de Hanouka un texte qu'on appelle Al-Anissim. Vous connaissez? Bon. Et comment? Non, Al-Anissim, c'est... Ah oui, alors c'est vrai ou pas? Très bien, je suis fier de toi. Donc Al-Anissim, parle de ce qui s'est passé à Hanouka, Keshe Amda Yem Malchut Yavan Arisha Labra Israël, lorsque l'empire scélérat des Grecs s'est levé contre ton peuple Israël. Et là, il y a une suite. Alors là, la suite, ça change selon les différentes traditions, selon les Ashkenazes et les Séfarades. Le texte véritable de Al-Anissim, c'est Lehashkicham Leshakicham Mitoratera. C'est quoi Leshakicham Mitoratera? On devrait dire Leshakram Toratera, pour leur faire oublier ta Torah. Mais Leshakicham Mitoratera, ça voudrait dire les oublier de ta Torah. Ce qui voudrait dire que les Grecs veulent la Torah, mais ne veulent pas Israël. D'accord ? C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment-là, le judaïsme devient un cas particulier de la culture générale. Il y a différentes manières d'être grec. Il y a être grec à la manière grecque, être grec à la manière égyptienne, ou être grec à la manière juive. Mais tous sont des Grecs. D'accord ? C'est-à-dire, c'est un effacement de la profondeur de l'identité. Qui se passe à Hanouka, et c'est ça l'obscurité contre laquelle nous avons lutté. Oui ?
Ils vont quand même écrire parce que c'est le Sefer en grec.
Est-ce qu'ils ont écrit le Sefer en grec ? Je pense qu'ils ont écrit la Bible en grec. Biblos, ça veut dire un livre. En grec, oui. C'est la version des Septante. D'accord ?
Et donc, comment ? C'est traduit en français, etc. Quoi, non ?
Oui. Oui, c'est ça. Ça voudrait donc dire qu'en fait la Torah peut être traduite en grec, en latin, en français, en anglais, en russe, en espagnol, en arabe, et qu'il y aurait également même une version en hébreu. L'hébreu serait un cas particulier d'une sagesse générale beaucoup plus importante. D'accord ? Oui. C'est-à-dire qu'on peut dire que les Grecs étaient tolérants. Ils étaient tolérants par rapport au judaïsme. Ils admettaient tout à fait que les Juifs aient un culte à eux. Et la révolte s'est faite lorsque il y a eu un petit groupuscule de juifs à Modine qui n'a pas accepté de se fondre dans l'environnement. Et c'est ça qui a entraîné les décrets d'Antiochus et tout le bazar. Oui.
En soi, ils voulaient pas s'imprégner de la sagesse de la Torah, comme vous avez dit, ils voulaient juste...
Non, pour eux, ils voulaient que la sagesse de la Torah, ouais. Pas la parole de la Torah. La culture grecque n'est pas aux antipodes de la Torah. Elle est à l'extérieur de la Torah. C'est pas tout la même chose.
C'est... La pureté qu'il y a dans la Torah, c'est...
Oui, mais attention, la civilisation grecque ne te demande pas d'être impur. D'accord ? Elle ne considère pas que ça représente quelque chose qui vaut la peine de s'attarder dessus. D'accord ? Mais il y a dans l'esthétique grecque, l'esthétique aussi bien au niveau physique au niveau spirituel, il y a une pensée grecque, eh bien, cette pensée a sa valeur. Elle n'est pas rejetée par la tradition juive, elle est simplement considérée comme l'écorce. D'accord ? Comme ce qui était à l'extérieur. Oui. Quoi encore ? Tu veux dire quelque chose ? Ah, d'accord. Bon, oui, quoi ? Hein ?
Je pense pas avoir très bien compris ce que vous avez dit au niveau de l'écrasement de l'individualité.
De l'intériorité de l'individualité. C'est-à-dire... ce que je suis, ça peut être considéré à différents niveaux. Il y a, par exemple, je suis le facteur, ou je suis le plombier, ou je suis l'ingénieur, je suis l'homme politique. Ce sont des fonctions que je remplis. C'est pas ce que je suis véritablement. Ce que je suis véritablement, ça vient de ma neshama. Or, le grec incite à ne considérer que la fonction que je remplis. D'accord ? Effectivement, donc, si la Torah remplit une fonction pour les nations, c'est la fonction de sagesse. Mais la fonction de parole, tandis que cette parole n'est pas adressée à eux, alors dans ce cas-là, c'est inaccessible de leur point de vue. Donc, s'ils ont décidé, c'est de considérer la Torah comme étant exclusivement une sagesse. Oui. Bon. Quoi encore ?
Bon. Il y a deux significations alors de l'obscurité qu'il y a eu ?
Non, c'est la même. Ça, c'est l'obscurcissement de la Torah. Après, il y a eu les décrets. Il y a eu les décrets, les persécutions, tout le reste. Ce sont des symptômes. La Grèce est obscurité par elle-même. D'ailleurs, il y a un midrash qui dit que quand Alexandre le Grand a fait la conquête du monde, il a conquis le nord, le sud et l'ouest. mais qui n'a pas réussi à conquérir l'Est. Historiquement parlant, c'est vrai, il s'est arrêté aux portes de l'Inde. Alors qu'il voulait continuer vers l'Est, et ses soldats lui ont dit, on ne va pas plus loin. C'est-à-dire que là d'où vient la lumière, c'est l'antithèse de la Grèce. D'accord ? Bon. On comprend donc qu'il y a un rapport donc, entre la fête des Lumières et la fête de Hanouka. Maintenant, il y a un petit problème, disons formel du point de vue de la halakha. Comment se fait-il que la fête de Hanouka n'ait pas été abolie ? Comme vous le savez, il y avait une liste de beaucoup de jours dans l'année qui étaient fériés à l'époque du Deuxième Temple, qui pour la plupart commémoraient des victoires des Hashmonaïm. Par exemple, comment ? Une seconde, j'en suis encore à présenter le problème. C'est un grand problème dans mes cours, c'est qu'il faut une certaine patience. Et donc, par exemple, vous avez la fête de ce qu'on appelle le jour de Nicanor. Vous connaissez la fête de Nicanor ? Non. Pourquoi vous ne la connaissez pas ? Parce qu'elle n'existe plus. D'accord ? La fête de Nicanor, c'était la commémoration de la victoire contre le général syro-grec qui s'appelait Nicanor, qui a été vaincu, et donc ce jour-là a été considéré comme un jour de fête pendant toute l'époque du Deuxième Temple, le jour de Nicanor. Ça tombait quand, en fait ?
Ah, c'est la fête de Nicanor.
La fête de Nicanor, ça tombait quand ? Si, on sait très bien. Oui, c'était le 13 Adar. Un jour avant Pourim. D'accord ? Mais pourquoi le 13 Adar ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On fêtait le 13 Adar. Donc, on jeûnait pas. Le jeûne d'Esther, là. Vous connaissez ? Ben, il semble que ça n'existait pas. Bon, en tout cas, pourquoi est-ce que ça a été aboli ? Toutes ces fêtes ont été abolies pour une raison très simple. Ce sont des fêtes dans le cadre de l'État indépendant des Hashmonaïm. Or, cet État a été détruit. Si l'État a été détruit, alors ça sert à rien de continuer à fêter des fêtes d'indépendance de l'époque en question. Et la question, donc, c'est pourquoi est-ce que Hanouka n'a pas été aboli ? Cette question est posée par la Guémara dans le traité de Rosh Hashanah. D'accord ? Oui, quoi ?
Mais vous avez dit que Hanouka, c'était une fête même avant cette période, en fait.
Et alors ?
Et donc peut-être qu'en fait, fait pas seulement cette période, mais aussi...
Ah, c'est une tentative de réponse, mais c'est ça que dit la Guémara ?
Comment ?
C'est pas ça que dit la Guémara.
Ah, je vais
dire la Guémara. Oui, la Guémara répond autrement. Oui, quoi ?
Mais est-ce que la fête de Hanouka est... Que par la victoire des Hashmonaïm.
Que
Il y a eu le miracle de la fiole aussi.
Et alors ? La fiole n'est pas une raison pour faire une fête. Ta question d'heure prouve que tu n'étais pas présent au cours d'hier. Ah ben voilà. Tout le cours d'hier, c'était autour de ça. D'accord ? Donc, en principe, la fête de Hanouka aurait dû être abolie. C'est ce que dit la Guémara. Elle n'a pas été abolie. Et la Guémara dit quelque chose de pas très clair. Mishum de Ipar Sam Nissa, parce que le miracle a été publié. C'est quoi cette histoire de miracle qui a été publié ? Il semble que s'il s'agit effectivement du principe du miracle de la fiole. Mais on avait vu que la fiole n'était pas suffisante pour fixer une date, pour fixer une fête. Mais la fiole a été une indication, un clin d'œil d'en haut, qui dit que cette fête a un sens même après la perte de l'indépendance. Pour une raison très simple, c'est que l'enjeu judéo-grec n'est pas encore achevé. N'est-ce pas ? Vous avez compris ? Il aurait suffi qu'il y ait une victoire militaire pour faire la fête de Hanouka. Mais cette victoire militaire finalement a été perdue puisque l'état des Hashmonaïm a disparu. Mais, étant donné qu'il y avait en plus de cela un petit miracle avec la fiole, d'accord ? Il y avait un petit miracle avec la fiole, c'était une allusion qui nous a été transmise d'en haut, comme quoi cette fête a un sens au-delà de l'époque historique où elle est relevante. D'accord ? Tu as compris maintenant ? C'est-à-dire que la lutte entre la Grèce et Israël n'est pas achevée, et donc c'est la raison pour laquelle il faut continuer à faire la fête de Hanouka, même après la perte de l'indépendance. Ouais. Et donc, la fête de Hanouka a pris brusquement une signification qu'elle n'avait pas auparavant, elle a retrouvé la centralité du thème de la lumière. Ce qui fait que pendant des siècles, les Juifs considéraient... Merci. C'est trop bon. L'essentiel de la fête de Hanouka comme centré autour des lumières, plus qu'autour du Hallel. D'accord ? Donc vous avez dans l'histoire une époque, depuis la création du monde jusqu'au Hashmonaïm, Hanouka est centré autour de la lumière. À l'époque de l'indépendance des Hashmonaïm, c'est autour de l'indépendance. Après la perte de l'indépendance, c'est la lumière qui revient. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier. Ne serait-ce que pour qu'on sache qu'il faut faire le Hallel à Yom HaAtzmaut. Maintenant, il s'est passé quelque chose à notre époque, enfin disons pas loin de notre époque, qui fait que la fête de Hanouka a retrouvé sa dimension politique. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a en Hanouka 1948 ? Il n'y a rien eu. Je cherche Hanouka, moi. Non, je parle de l'indépendance. Il y a eu quelque chose le jour de Hanouka de l'année 1917. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka en 1917 ?
Russe.
Comment ?
Russe.
La révolution, c'était pas loin, effectivement,
à peu près à la même époque. Je vous avais un morceau de Kleenex ou un truc comme ça. Ah,
bon. Sinon, je vais chercher tout seul. Hein. Bon. Donc, en 1917, le jour du 24 qui se lève, le général Allenby est arrivé aux portes de Jérusalem pour réaliser la déclaration Balfour qui avait été donnée quelque temps auparavant. Et c'est, la déclaration Balfour affirmait que le gouvernement britannique est favorable à l'établissement d'un foyer juif, d'un foyer national juif en Eretz Israël. Mais c'était à l'époque, au moment où cette déclaration a été faite, Jérusalem n'était pas encore conquise, elle était encore aux mains des Turcs. Mais le 24 qui se lève, Allenby arrive aux portes de Jérusalem, reçoit les clés de la ville et, merci beaucoup, passe sa première nuit à Jérusalem le soir, qui était le jour de Hanouka. C'est ça ? C'est-à-dire, la boucle était donc bouclée à partir de ce moment-là, le 24 qui se lève étant l'entrée dans Hanouka. Il y a d'ailleurs, derrière la Tachana Merkazit à Jérusalem, à Romema, vous avez une stèle, enfin il y a un monument sur la place qui est derrière la Tachana Merkazit, qui commémore cet événement. C'est là que Allenby a reçu les clés de Jérusalem. Ouais, c'est sympa. D'ailleurs, c'est intéressant d'analyser ce qu'il y a sur le monument, mais enfin c'est pas notre sujet pour l'instant. Oui. Quoi ? Quoi ?
Ah, c'est-à-dire qu'avant 1917, on faisait pas le
Hallel ? Avant 1917, on faisait le Hallel.
Ah, mais là, du coup, ça a repris un sens. Là,
ça a repris un autre sens, exactement.
Exactement.
C'est-à-dire, ce qui est devenu plus central, à nouveau, la fête de Hanouka a retrouvé sa dimension nationale.
Donc, c'est-à-dire que là, ce qui est central, c'est la lumière en même temps.
Oui. Bon. Maintenant, il y a beaucoup de questions autour de Hanouka. Tout d'abord, l'histoire de l'allumage des lumières. Comment est-ce que ça a commencé ? Il y a un texte de la Guémara dans le traité de Shabbat qui dit que il y avait, à l'époque, des persécutions contre la circoncision. Il était très dangereux de faire la circoncision, on la faisait en secret, n'est-ce pas ? Mais le problème, c'est que les Grecs, qui cherchaient à empêcher la circoncision, savaient très bien, si on savait qu'un enfant venait de naître, ils n'avaient qu'à compter 8 jours pour chercher le gosse, n'est-ce pas ? Et donc, les femmes accouchaient en secret. Mais comment faire pour avertir les gens du village qu'il y a une circoncision dans la maison ? Eh bien, la Guémara dit, on allumait des lumières à la fenêtre. Combien de lumières ? Donc, le premier jour, au jour de la naissance, la nuit de la naissance, on mettait une lumière, le deuxième jour, 2 lumières, etc. Et donc, au 8e jour, on arrivait à 8 lumières. Ou bien peut-être le contraire. Peut-être que le premier jour, on en faisait 8, Et après, ça descendait jusqu'à ce qu'on en arrive à une. Vous comprenez maintenant l'origine de la marloquette entre Beit Shammai et Beit Hillel. Si on fait en ordre croissant ou en ordre décroissant. Et donc, lorsque on s'est libéré des Grecs, il y a probablement des Juifs qui se sont dit, eh bien, nous allons prendre cet usage pour fêter la fête de Hanouka. Ce qui voudrait donc dire que l'origine de l'allumage des lumières n'a pas commencé par une décision du Sanhédrin, mais ça a commencé par un mouvement spontané du peuple, qui s'est dit, tiens, c'est une bonne idée. D'accord ? Il y a parfois des choses qui viennent de ce qu'on appelle le minhag. Le minhag qui est spontané, qui vient de la part du peuple et qui après reçoit un statut de bénédiction, avec une bracha et tout le reste. D'accord ? Par exemple, lorsque il y a eu la libération de Jérusalem en 1967 et qu'on a annoncé à la radio que Jérusalem venait d'être libérée ainsi que le mont du Temple et le Kotel, ma belle-mère a allumé des bougies. Est-ce que c'est écrit dans le Shulchan Aruch que lors de la libération de Jérusalem, il faut allumer des bougies? Non. Alors pourquoi est-ce qu'elle l'a fait? Parce qu'elle a envie de le faire, d'accord? C'est du spontané. C'est bien, on peut penser que c'est à peu près la même chose qui s'est passée pour l'allumage des lumières à l'origine. Après, ça a pris le statut d'un minhag, et le minhag est devenu une halakha, et c'est depuis qu'on fait la beracha. D'accord? Il y a... souvent, d'ailleurs, on voit des choses qui commencent comme minhag et qui, par la suite, deviennent une halakha. Ça explique également un autre problème autour de l'allumage des lumières. Vous connaissez, il y a un texte, je pense que vous avez déjà entendu parler, un texte qu'on appelle Alanissim, qu'on dit lors de la prière de Hanouka, et dans lequel il est dit... tu connais oui, un peu, très bien. Alors, on dit que tes enfants sont entrés dans le temple et l'ont purifié, Tiaru et Mikdashecha, Vidliku Nerot Behatsorot Kotshecha, et ils ont allumé des lumières dans tes saints parvis. Dans tes saints, S-A-I-N-T-S, parvis, P-A-R-V-I-S. Comment? P-A-R-V-I-S. Un parvis, c'est une cour, une grande cour. D'accord? Chatzrot Kotshecha. Le problème, c'est que cette prière dit quelque chose qui, a priori, est faux. Où est-ce qu'on allume les lumières de la menorah dans le Beit HaMikdash? Dans le Echal. Dans le sanctuaire intérieur, pas dans la cour. Alors, c'est quoi cette histoire qu'ils ont allumé des lumières dans les cours? Il y a écrit qu'ils ont allumé dans la cour. Yedliku Nerot Bechatzrot Kotshecha. Alors ça serait, vous allez dire qu'ils ont fait une illumination. Rien à voir donc avec la menorah. D'accord? Possible, hein? 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 Ils ont allumé dans la cour et après ils ont introduit dans le sanctuaire. Effectivement, d'après la halakha, c'est possible. On peut allumer la menorah à l'extérieur et après la mettre dans le sanctuaire. Certains ont essayé d'expliquer de cette manière. Le problème, c'est pourquoi faire une chose pareille? Pourquoi ne pas tout simplement allumer à l'intérieur comme d'habitude? Pour avertir. Non, il y a une idée du Rav Israël Ariel de l'Institut du Temple qui dit que les lumières qui sont sur la menorah, elles sont amovibles. D'accord? Elles sont pas fixées. Et on a voulu honorer les chefs d'armée. Or, les chefs d'armée n'étaient pas tous des Kohanim. Donc, ils ne pouvaient pas rentrer dans le sanctuaire. Donc, on a fait une cérémonie dans laquelle on a honoré les chefs d'armée et on leur a dit, voilà, vous allez allumer la première lumière, la deuxième, la troisième, etc. Une fois qu'ils s'étaient allumés, ils ont introduit les lumières, ils les ont mis sur la menorah. D'accord? Est-ce que ça tient la route ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Maintenant, il y a un problème avec la lumière de Hanouka, c'est que c'est une lumière, en décadence. Vous savez, la halakha est qu'on allume la lumière au début de la nuit, le soir, et on met une toute petite quantité d'huile, en fait, ça doit suffire au grand maximum pour une demi-heure, et on peut se servir des huiles et des mèches qui ne sont pas appropriées à l'allumage de Shabbat. D'accord ? Quelle est la différence? C'est que pour Shabbat, il y a des huiles particulières qu'on a le droit de prendre, d'autres qu'on n'a pas le droit, des mèches qu'on a le droit de prendre, d'autres qu'on n'a pas le droit. Quel est le critère? Si ça brûle bien ou pas. D'accord? Alors pour le Shabbat, la halakha insiste, nous sommes intéressés à ce que la lumière dure. N'est-ce pas? On est intéressé à ce que la lumière dure. Mais donc il faut des bonnes mèches et des bonnes huiles. Or, pour les lumières de Hanouka, on est indifférent. Le principe, c'est kafta et mzakoukla. Même si la Hanoukia s'éteint d'elle-même, on ne la rallume pas. Il n'est pas nécessaire de la rallumer. Pourquoi? C'est comme si on se disait, de toute façon, c'est une lumière qui va s'éteindre. Effectivement, la lumière de Hanouka, c'est une lumière qui s'est éteinte. C'était la fin de la présence de la Shekhina. C'était la dernière goutte, si vous voulez, de présence de la Shekhina à l'époque du deuxième temple. Après, c'est entré en décadence. Mais c'était un début de lumière pour éclairer l'obscurité de l'exil. C'est-à-dire, grâce à Hanouka, l'exil a été supportable relativement. Je voudrais faire une petite remarque historique qui ne va pas nous faire plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du monde à partir de Hanouka? C'est à partir de ce moment-là que le monothéisme a commencé à gagner le monde. Jusqu'à l'époque de Hanouka, le monde dans son ensemble est idolâtre. À partir du moment où les Juifs ont un État indépendant et que cet État, ils l'ont créé pour lutter pour la Torah, à partir de ce moment-là, le judaïsme a commencé à avoir une influence dans le monde. Et depuis, les idées du judaïsme, c'est-à-dire que Dieu est un, qu'il n'a pas de corps, etc., etc., et ça, c'est devenu quelque chose de familier au goyim.
C'est pas parce qu'au 4e siècle,
comment?
Quand l'Empire romain,
Oui, mais ça a commencé comment? L'influence des Juifs dans l'Empire romain, c'est venu d'une influence, c'est venu du fait que les Juifs étaient un État. Qu'il y avait, les Juifs étaient considérés comme un royaume, le royaume de Judée, et il entretenait un dialogue d'égal à égal avec les Romains. D'accord? Et donc on peut dire que une des conséquences de l'action des Hashmonaïm, c'est le christianisme.
L'islam.
Et l'islam aussi par la suite. L'islam est une dérivée de dérivée. C'est-à-dire que, en fait, l'extension universelle du monothéisme dans le monde commence par Hanouka. Alors c'est vrai que ça ne nous fait pas plaisir parce que la forme que ça a pris est une forme très désagréable. Mais le fait est là quand même. C'est pour ça qu'on dit, dans Al-Anissim, c'est la prière qu'on dit à Hanouka dans le Shmoneh Esrei, vous connaissez probablement, « Ulecha asita shem gadol vekadosh v'olamecha » Tu as fait un grand renom pour ton nom dans ton monde. Effectivement, si on réfléchit à la portée de Hanouka, c'est beaucoup plus que quelque chose dans l'intimité du peuple juif, c'est devenu la mise en place du judaïsme comme étant un élément important, décisif, dans l'histoire de la pensée humaine. Oui.
Comment vous avez démontré que c'est à partir de Hanouka que le
monde est... Ah, tout simplement, parce qu'il y a un principe dit dans Kohelet, « Chochmat amisken bezouya odvara venam nishmaim » La sagesse du miséreux n'est pas écoutée. Effectivement, s'il n'y avait pas eu l'action de Matityahu, alors il y aurait eu encore des juifs monothéistes en Judée, et ça serait devenu une curiosité touristique pour le monde entier. Tiens, il y a un endroit dans le monde où il y a des gens qui ne croient pas dans les dieux de la mythologie. Mais à partir du moment où il y a eu la restauration du temple, la restauration de l'indépendance politique des juifs, c'est alors qu'on a commencé à les écouter. Parce qu'avant, les juifs étaient méprisés. Ils étaient un phénomène, disons, secondaire par rapport à l'hellénisme dominant. D'accord? Effectivement, on voit, il suffit de lire Flavius Joseph pour voir quelle est la place que tenaient les juifs dans l'Empire romain. Il y avait un empereur du nom de Claude. As-tu entendu parler de Claude, l'empereur? Oui, il a été fait empereur par les pressions exercées par Agrippa, qui était un descendant des Hashmonaïm. D'accord? C'est-à-dire, c'était très important à l'époque, dans toute la classe cultivée à Rome, Le judaïsme était parfois pratiqué même. La femme de l'empereur Néron, qui s'appelait Poppéa, pratiquait le judaïsme, par exemple. Oui.
Le sentiment de Léo Biout, il a vraiment explosé à partir de cette victoire.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui.
Faire pour que toutes les autres nations ils adaptent, on va dire, le judaïsme, ils adaptent l'idée, ils acceptent complètement.
Alors, réceptacle, oui. Oui, nous avons un autre Hanouka, c'est la création de l'État d'Israël et encore plus que ça, la guerre des six jours. La guerre des six jours a créé un mouvement de transformation intérieure de la civilisation universelle, en particulier au sein du christianisme. Il y a une... Eh bien, tout simplement, le fait... Comment ?
Ils ont accepté, en fait, Israël...
Ils n'ont pas vraiment accepté, mais enfin, ils ont fait des remises en question. Il y a aujourd'hui, au sein du christianisme, une remise en question très forte de leur fondement théologique. Oui ? Quoi ? Oui, bien sûr. À l'époque du deuxième temple, après la révolution des Hashmonaïm.
Pareil, pendant la royauté de Shlomo.
Oui, mais ça, la royauté de Shlomo, ça c'est très ancien. Ça, c'est de la préhistoire, carrément.
Alors, ça de quel moment, en quelle période
à l'époque de la puissance des Hashmonaïm. Très longtemps. Très longtemps. Maintenant, je voudrais vous parler d'un autre problème. Vous savez que les Hashmonaïm étaient... C'est fini là-bas ? Les Hashmonaïm, quoi ? Oui, bien sûr. Mais c'était une préparation à l'exil. C'est-à-dire cette lumière nous a accompagnés quand même. D'accord ? C'est pour ça qu'elle est une lumière à l'extérieur. On allume dehors. D'accord ? Quoi ?
Est-ce que vous avez un exemple d'un mina qu'on a eu qui est devenu la rare ?
Oui, bien sûr. Le Hallel à Rosh Chodesh, par exemple. Oui.
Même à l'extérieur, on amène l'intérieur ?
Non, de l'intérieur. La lumière de Hanouka s'allume à l'extérieur. C'est pour illuminer donc l'obscurité de l'histoire. Oui ? Oui. Oui, parce que c'est la Grèce. Et que la Grèce, c'est l'obscurité. Maintenant, je voudrais parler encore, dans les minutes qui nous restent, d'un autre problème. Les Hashmonaïm étaient des rois. Incroyable, incroyable. Je ne veux pas donner un cours comme ça. Les Hashmonaïm étaient des rois. De quelle tribu ? C'était les Kohanim. N'est-ce pas ? C'était des Kohanim, c'était des prêtres.
Les Hashmonaïm,
c'était des Kohanim.
Et oui. C'était des rois.
Eh ben, ils ont pris le pouvoir.
C'est pas la tribu de Yehuda, non ?
Ah ben voilà, tu rentres de plein pied dans le problème. D'accord ? Tu mets les pieds dans le plat. D'accord ? Or, c'est ça le problème. Est-ce qu'un Kohen peut être roi ou pas ? Déjà à l'époque des Hashmonaïm, la chose était discutée. Certains contestaient aux Hashmonaïm le droit d'être des rois, et d'autres l'admettaient. Par exemple, ceux qui l'admettaient, c'était les Hashmonaïm. Ils admettaient tout à fait leur droit à être roi. Il semblerait en fait que c'est un débat entre l'opinion du Talmud Yerushalmi et le Talmud Bavli, mais de manière très claire, ce débat se retrouve au Moyen-Âge entre le Rambam et le Ramban. Le Rambam dit que les Hashmonaïm avaient tout à fait raison de régner, et le Ramban dit qu'ils avaient tout à fait tort de régner. D'accord ? Effectivement, la dynastie des Hashmonaïm a complètement disparu, elle a été exterminée par les Hérodiens, etc. Oui ? Hein ? Si, on peut être apte, et mais prenez justement, c'est ça le problème. Est-ce que ne pas être de la tribu de Yehuda n'est pas un problème d'aptitude essentiel. Parce qu'il y a ici un petit problème. Vous connaissez la première génération des Hashmonaïm. Ils avaient des très beaux noms. Matityahu, Yehuda, Yonatan, Shimon et Lazare. C'est des beaux noms, non ? Hein ? Ouais. Deuxième génération, après Shimon, Yehuda Aristobulos. Oui.
Un beau nom.
Oui, surtout Yehuda. Oui, c'est le même. Yehuda Aristobulos, c'était un roi de la dynastie des Hashmonaïm. Je crois qu'Aristobulos n'est pas un nom juif à l'origine. Mais quand même, le nom hébreu vient avant. Yehuda Aristobulos. En français, Aristobule. Et puis après, vous avez Yohanan Horkanos. Ah non, c'est Yohanan Horkanos et après Yehuda Aristobulos. En tout cas, donc, Yohanan, Yehuda, mais il y a un nom en grec en plus. Après, vous arrivez, une génération plus tard, vous tombez sur un roi qui s'appelle Alexander Yanai. Comment ? D'accord, mais enfin, c'est quand même un nom grec. Alexandre Yanai. Yanai, c'est un mot en hébreu. Alexandre, c'est en grec. Après sa mort, règne sa femme, qui s'appelle Alexandra Shlomtzion. Donc, vous voyez, le nom grec vient en premier. Mais il y a quand même un nom en hébreu. Après, vous passez à la génération d'après, vous avez des rois qui s'appellent Aristobulos, Orcanos, Antigonos. Plus d'heureux. Et on peut se demander, mais comment c'est arrivé? C'est arrivé pour une raison très simple. C'est que les Kohanim ne savent pas gouverner un État. Pourquoi est-ce que les Hashmonaïm ont fait la révolte? Ils ont fait la révolte pour des raisons religieuses. On a souillé le Beth Amikdash. Et donc, ça, c'est un scandale. On a présenté un cochon sur l'autel. C'est un scandale. On nous empêche de faire le Shabbat, la circoncision. Il faut lutter contre. Donc, ils ont fait la révolte. Bon, très bien. Il faut se révolter quand il y a des persécutions de ce genre. Mais après, le pouvoir, eh bien, il faut le donner à ceux qui s'y connaissent en pouvoir. Or, ça, c'est la dynastie de David. À partir du moment où ce sont des religieux, c'est-à-dire dans le sens restreint du terme, ceux qui sont, aptes au culte, qui vont essayer de gouverner l'État, ils n'ont pas ce qu'on appelle la science politique. Or, la science politique, à l'époque, elle était chez les Grecs. Donc, si tu n'as pas de doctrine politique particulière à Israël et que tu prends quand même le pouvoir, eh bien, c'est les Grecs qui vont apprendre à gouverner un État. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Tandis que s'ils avaient transmis la royauté à la dynastie de David, eh bien, ça aurait été autrement. D'accord ? Mais en tout cas, on n'a pas encore réglé le problème de la controverse entre le Rambam. Entre le Rambam et le Ramban, et à propos de la royauté des Kohanim, je voudrais vous donner ici très rapidement un enseignement de Rabbi Tzadok de Lublin. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, le Péri Tzadik, qui sur la base de différents textes que je ne vais pas vous développer maintenant, explique que quand est-ce que des Kohanim peuvent être des rois quand ils viennent au nom de la loi orale. Mais quand est-ce que ça cesse? C'est à partir du moment où les rois Hashmonaïm sont devenus des Sadducéens qui remettent en question la loi orale, et c'est là qu'ils ont perdu leur droit à la royauté. J'étais un peu rapide, mais que faire? Nous arrivons maintenant aux publicités et aux infos. Shalom.